Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler histoire et généalogie avec Jean-René Boutin, qui est archiviste à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. Salut Jean-René.
Salut Pierre.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi?
Oui, ça va bien. Ça fait plusieurs personnes à qui je parle, puis on parle de la Société d'histoire, tout le monde dit ça, c'est important, c'est le fun qu'on ait ça, mais c'est quoi la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine? C'est la question que je me suis posée, et je me suis dit, on va aller leur poser la question directement. Et c'est pour ça que j'ai communiqué avec toi, parce que Je voulais qu'on démystifier, expliquer à la population ce petit joyau qu'on a dans la communauté.
On peut le dire, oui.
Oui. Premièrement, commençons au départ. Là. Ouais. Comment s'est née la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine?
Un historique qui remonte à peu près autour de 1988, lorsqu'elle a été implantée. Bon, il y a eu quelques changements de nom au travers des années, mais on garde la substance, on garde l'essentiel. Donc, on en arrive aujourd'hui avec la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, qui est un organisme à but non lucratif.
OK. Donc, c'est pas une... C'est pas la ville qui gère ça, là.
Non, c'est ça. L'illusion est souvent là. Je l'entends souvent. J'étais content, justement, que tu me contactes et qu'on parle de ça avant l'entrevue, là, pour savoir...
C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait comme différence?
Bien, ça fait une différence au niveau institutionnel, au niveau organisationnel. C'est pas la même structure, là. C'est pas un organe de la ville. C'est un organisme à but non lucratif qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Okay.
Donc, BINQ en abrévié. Des fois, j'ai entendu banque. Là. En fait, c'est un acronyme. C'est BINQ. Mais effectivement, c'est une belle banque de documents. Ouais. Donc, c'est notre service d'archives québécois.
Comment c'est né? Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, il faudrait peut-être conserver notre histoire.
Bien, ça s'est fait autour des fêtes du 60e anniversaire de Dolbeau.
Okay.
Donc, la ville a été fondée en 27, donc 87. Donc, on s'est dit, il faudrait peut-être commencer à songer à ça. 60 ans après, c'est pas trop tard. Hein?
Non, il y avait encore des gens vivants qui étaient
là. On voit encore la préoccupation de l'histoire. C'est pas quelque chose qui est toujours dans les priorités.
Ouais.
Mais après, quand le temps s'accumule, il y a des documents qui peuvent s'être perdus, etc. Le plus tôt possible, faut s'en occuper.
Hein. Bien, on le voit. Moi, je suis sur la page Souvenirs d'Olbeau-Mistassini. Oui. Là, et là, souvent, des gens vont mettre une photo. Qui se souvient de ça? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître les gens? Et là, tout le monde nourrit parce qu'on est fasciné, finalement, par l'histoire quand on a habité un coin pendant longtemps. Mm-hmm.
Puis surtout quand il arrive un anniversaire.
Oui.
Comme par exemple, il y a la municipalité de Girardville, bientôt, qui va fêter son centenaire. La société, présentement, œuvre à présenter, à organiser les expositions qui vont se dérouler dans le cadre des fêtes du centenaire de Girardville.
Okay.
Les gens font des prêts, des dons de documents, et nous, les archivistes, on les traite pour les préserver à long terme aussi, et également pour la présentation aussi. Là.
Fait que ça, c'est né donc vers la fin du 20e siècle.
Ouais.
C'est quoi votre mission globale?
Notre mission, c'est d'acquérir, de traiter et de conserver les documents d'archives de notre collectivité, qui est la MRC Maria Chapdelaine, d'où le nom de l'organisme.
Okay.
Donc, on a une portée qui est beaucoup plus que le territoire de d'Olbeau-Mistassini. Oui, on est implanté ici, mais on a comme mission de s'occuper des documents de tout ce secteur-là qui est la MRC.
Fait que là, tu dis acquérir, donc, c'est d'acheter, de récupérer, de trouver. Mais quoi? Qu'est-ce que vous cherchez?
Acheter moins. On recueille surtout des dons. Des dons de documents. À l'occasion, c'est des prêts, des fois pour des expositions, des gens qui peuvent prêter des documents qu'on peut leur rendre après. Tout ce qui peut documenter, là, j'ai dit documenter des documents. Qu'est-ce qu'un document? Une photographie, un texte, ça peut être une bobine, un enregistrement sonore. Il y a différents types de documents. Donc, on s'occupe de les acquérir pour pouvoir les mettre en valeur plus tard. On a une mission de diffusion aussi.
Okay.
Et entre les deux, il y a tout l'aspect conservation qui est très normé. En archives, on a beaucoup de normes de conservation et ça, c'est réglementé par exemple par BINQ. Plutôt aujourd'hui, justement, le Centre de conservation du Québec faisait un tour à nos installations. Donc, on a toutes sortes
de
procédures, de règles à suivre.
C'est quoi ces règles-là, par exemple? Tu sais, je me rappelle, moi, d'être allé aux Archives nationales à Québec. Là, je sais qu'il fallait avoir des gants chez les documents, des choses comme ça.
Entre autres.
Mais c'est ça aussi que vous devez faire?
Oui, quand un papier est ancien, il peut se dégrader, puis l'huile de nos doigts, On a tous les mains un peu grasses, même ceux qui ont les mains sèches, on a des petites huiles sur la peau, ça peut dégrader le papier. Si on veut que notre papier soit encore beau et lisible dans 100 ans d'ici, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de conserver le document pour que les gens puissent retracer leur histoire de leur vivant ou nous retracer l'histoire qui est passée avant nous. Donc, il faut faire attention à la source de cette histoire-là,
ouais, ouais.
Parce que l'histoire, c'est pas... D'ailleurs, ça me fait penser, petit aparté, la société d'histoire, ça dit notre nom d'organisme. Les gens ont peut-être des fois tendance à penser qu'on est une forme de dépositaire de la mémoire, là, sans vouloir paraphraser un excellent film de fiction de là quelques années. Là. Mais des gens qui savent tout, qui ont la science infuse sur l'histoire, très peu sont-ils. Et est-ce que c'est vraiment un objectif? Non, l'objectif est plutôt d'avoir accès à cette connaissance-là, de pouvoir reconstituer l'histoire. Donc, le document, les archives.
Oui, parce que faire de l'analyse ou une compréhension, elle va changer 10 ans après un événement, oui. 20 ans, elle va encore changer 50 ans plus tard parce qu'il y aura d'autres données qui vont oui. rentrer. Mais avoir accès aux dates, aux photos, c'est ça ton rôle, en fait. Là. C'est de s'assurer qu'on ait ça.
Oui, c'est de s'assurer que la machine est bien huilée puis permet justement de conserver le document et oui. de le retrouver facilement, qu'il soit intelligible aussi.
Le retrouver, ça veut dire que tu dois avoir un système de classement. Est-ce que c'est
oui.
toi qui le crée ou c'est déjà fait par la BNQ?
Oui, bien, à la société, on a certaines normes organisationnelles. Ce à quoi l'archiviste peut s'inspirer pour faire quelque chose qui ressemble un peu plus à sa vision qu'il y a du fonds d'archives, mais il reste toujours des formes, des types de codes à suivre, des modèles
okay.
pour organiser. Un fonds d'archives, c'est très organisé. Il y a un titre au fond. Avec un chiffre qui lui est associé.
C'est quoi un fonds d'archives?
Un fonds d'archives, en gros, c'est une collection, si
okay.
on veut.
Okay?
Là, peut-être qu'académiquement parlant, je n'ai pas exactement le bon terme.
Non, c'est
mais
correct,
c'est un ensemble, on va dire. Un ensemble de documents qui représentent, qui viennent du même auteur, souvent.
Okay.
Donc, par exemple, un auteur peut être un organisme public, privé. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous, on est un centre d'archives privé.
Okay.
Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de documents d'organismes publics. Mais en grande partie, on a aussi des documents qui nous proviennent de sources privées.
Comme par exemple, je vous donne un exemple, là, moi, mon grand-père décède, là, il est déjà décédé, mmh. là, fait que c'est un exemple fictif, et il y avait une grande collection de photos d'époque,
mmh.
et puis là, on pourrait créer un fonds d'archives en son nom.
Pour le nom de ton grand-père. Donc, okay. il y aurait le nom, on va dire par exemple, fonds numéro... A22,
ouais.
par exemple, fonds du grand-père de Pierre.
Ouais.
et là, dans ce fonds-là, à l'intérieur, on n'est pas pour tout mettre les photos de ton grand-père pêle-mêle, 1980 par-dessus 1950. Non, on va faire un ordre à ça. On pourrait faire une série à ce moment-là à l'intérieur et dire ça, c'est les photos de sa vie personnelle, ça, c'est les photos de son travail. Ah, ça, c'est les documents qu'il a écrits dans le cadre de... Qu'est-ce qu'il faisait, ton grand-père, par exemple?
Oh, écoute, il était homme à tout faire, mais il a travaillé autant pour les pères trappistes ici dans l'ancien monastère qu'au Mont Apica.
Okay,
donc,
okay.
Il a fait beaucoup de travail, mais il était bien impliqué dans sa communauté à sa manière.
Là. OK, OK. Admettons qu'il a eu à rédiger un petit croquis là, pour pour un bâtiment quelque part. Bien, ça pourrait aller dans la série sur les plans et croquis. On a des sortes de façons, on classe pas seulement par type de document, mais aussi par sujet,
okay.
pour rendre intelligible l'histoire de la personne, de façon à pouvoir faire une biographie aussi. Là.
OK. Fait que ça, c'est... Fait que vous créez, en fait, ces fonds d'archives-là. Vous démêlez aussi, j'imagine, que des
ouais.
fois, il y a beaucoup de... Comme un casse-tête, là. Ça, mm-hmm. ça va où? Qu'est-ce que c'est? Trouver, c'est quoi? Est-ce que des fois, tu arrives devant des documents, puis tu fais... J'ai aucune idée, c'est quoi?
Oui, oui, ça arrive, oui. Et entre autres, on offre aussi, c'est peut-être le moment de le mentionner, on offre des services de gestion documentaire.
Ah ouais, ça, je vais y arriver au service.
On va attendre un petit
oui,
peu.
Oui, oui, c'est ça. Parce qu'avant, je voulais savoir, parce que dans la société d'histoire, il y a aussi
oui.
et de généalogie.
Oui, il y a ça aussi.
C'est quoi la différence pour vous dans le travail entre ce qui a un lien avec l'histoire et la généalogie?
Okay. Généalogie, pour préciser, moi, j'ai pas les formations en généalogie. C'est une discipline qui est connexe à l'histoire. Moi, j'ai étudié, j'ai fait un bac en enseignement de l'histoire au secondaire et j'ai un certificat en archivistique.
OK.
La généalogie, c'est plus une activité qui se transmet, c'est un savoir qui se transmet comme ça. C'est pas une discipline qui est nécessairement, peut-être que je vais me fourvoyer, là, mais qui n'est pas académiquement encadré, mais c'est un savoir qui se transmet.
Okay.
C'est plus une habitude qu'on peut prendre, qu'on peut développer à l'aide de des gens qui l'ont déjà fait parce qu'il s'agit de rechercher, par exemple, avec les registres des églises, les registres des paroisses, de retracer ses ancêtres.
Okay.
Donc, avec les mariages, les baptêmes, les naissances. Donc, de suivre la lignée généalogique des gens.
Donc, moi, je pourrais aller vous voir pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider à retracer ma généalogie?
Oui, tout à fait. Okay. Si tu veux découvrir d'où viennent tes ancêtres, qui étaient-ils? Donc, on peut remonter assez loin parce que la plupart des naissances et des mariages ont tous été bien... la plupart du temps. Bien, je dis bien, des fois, c'est très mal écrit.
Ouais.
Certains prêtres avaient une plume plutôt difficile à décrypter. J'en ai vu plusieurs. C'est pas parce que j'ai pas la formation et je m'y adonne pas au quotidien que j'ai pas contact avec ça fréquemment. Et je peux te dire que des fois, lire des registres, c'est plutôt difficile parce que la plume des prêtres des temps anciens n'était pas toujours évidente à décrypter.
Ouais,
et ça peut permettre aussi d'obtenir un statut de métisse.
Okay.
Si on est intéressé à faire partie de l'Alliance autochtone, par exemple, nous, on offre ce service-là. C'est une spécialité qu'on a à la Société d'histoire. C'est un savoir. Tout à l'heure, je disais, la généalogie, c'est un savoir qui se transmet, c'est un savoir-faire. Et la généalogie autochtone, c'est une autre paire de manches.
OK. Pourquoi?
Parce que c'est plus difficile, puis bon...
Est-ce parce qu'il était plus dans la tradition orale puis gardait moins d'écrits?
C'est sûr qu'à un moment donné, on se bute à une civilisation qui n'a pas d'écrits.
Oui.
Donc là, c'est plus difficile à ce moment-là, mais c'est qu'il y a des gens qui sont plus connaissants du sujet, qui peuvent opérer un transfert de connaissances, et ça prend ces gens-là pour pouvoir que ça se continue, la facilité de faire de la généalogie amérindienne. Et c'est ce qu'on a eu la chance de bénéficier à la SHGMC.
Okay.
C'est l'acronyme de notre société, la SHGMC.
OK. Et quel autre service que vous offrez? Donc, on a dit, bon, généalogie, c'est quelque chose. Au niveau historique, bien, vous pouvez récupérer les documents. Donc, je pense que des fois, si, par exemple, quelqu'un de votre entourage décède et a beaucoup de documents, ça peut peut-être être intéressant de vous laisser jeter un coup d'œil là-dessus parce que vous ne devez pas être intéressé par tout.
Bien, c'est souvent ce qui arrive, que quand il y a un décès, les gens viennent nous voir, mais c'est le temps, même jeune, de commencer à créer ses propres archives. Okay. Et bon, chez nous, c'est peut-être pas toujours 100% en sécurité. On a une belle voûte à la Société d'histoire qui est là pour préserver les documents, qu'on régule la température, l'humidité. Il y a un système d'extincteurs au gaz, entre autres. Donc, s'il arrive un incendie, ça étouffe l'incendie à l'aide d'un gaz. C'est un système assez spécialisé.
OK. Fait que c'est en sécurité, si, mettons, on pourrait craindre pour ces archives-là, un peu comme quand un coffre-fort à la banque.
Oui, c'est ça, à peu près.
OK. Bon. Quel autre service est-ce que vous offrez à la population?
La gestion documentaire.
Oui.
Et là, tu dis à la population, ça, c'est plus aux institutions.
Aux institutions. OK.
Aux
donc,
organismes.
On va séparer les affaires. Les services aux institutions. Donc, gestion documentaire, c'est quoi? C'est de se pencher sur leurs archives pour les démêler?
Bien, en fait, c'est le temps de redresser peut-être un petit peu un terme, tu m'excuseras. Archive. Qu'est-ce qu'une archive? C'est un document qui n'est plus utile activement.
OK.
Donc, quelque chose qui a passé sa vie utile, pas utile. Il y a deux vies, un document.
Oui,
il y a une
vie c'est pas qu'il devient
première.
Inutile.
Non,
mais
c'est ça. Il y a une valeur première.
Ouais.
Et il y a une valeur secondaire qui est celle de documenter l'histoire d'une personne, l'histoire d'un organisme.
Okay.
Et cette valeur secondaire-là, c'est ça qui nous préoccupe là, au niveau des fonds d'archives. C'est ça qu'on veut conserver.
Comme par exemple, dis-moi si je me trompe, mais mettons, moi, on fait un procès-verbal pour notre organisme. Mm-hmm. Et là, ce procès-verbal-là, il est utile pour la rencontre qu'on fait. Mais une fois qu'il est fait, bien, dans le temps, on peut, pour vous, ça peut être intéressant de savoir, c'est dans cette telle réunion-là où tel enjeu a été débattu de cette rencontre-là parce qu'il est inscrit à l'ordre du jour.
Oui, d'ailleurs, c'est ça. Le procès-verbal est un type de document qu'on conserve.
OK. Est-ce que vous gardez tout? Vous faites un tri?
Non, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui sont « on garde tout, c'est important », puis ils se braquent un peu quand c'est le temps de jeter. C'est pas l'approche à privilégier, ni celle de dire « Ah non, ça, c'est pas important, je pense qu'on s'en servira plus jamais. »
C'est du cas par cas.
Oui, puis ce cas par cas-là est bien réglé par un calendrier de conservation.
OK.
Oui, et un plan de classification.
Okay.
Donc ça, c'est des outils de gestion documentaire. Donc nous, les archivistes, on est qualifiés pour en créer et pour les appliquer.
Puis c'est quoi?
Bien, en gros, le plan de classification permet de bien cibler le sujet. À quoi sert ce document-là? C'est quoi sa finalité?
Oui.
Est-ce que c'est un document qui sert à documenter le dossier d'une personne dans ton organisme? Est-ce que c'est un document qui sert, par exemple, à suivre l'évolution d'une usine d'épuration des eaux? Parce que je dis ça parce que présentement, je suis aux travaux publics de la ville de Domo-Mississini et je donne mes services de gestion documentaire dans le cadre d'un grand projet de gestion que la ville a entrepris pour justement intelliger toute la masse documentaire qui existe dans tous les bâtiments, dans tous les classeurs à la ville, et qu'on ait avec ça des délais de conservation qui s'y appliquent pour qu'il y ait un roulement, que les documents pas importants ou d'importance éphémère sortent, qui soit détruit selon les normes.
Puis un calendrier de conservation, c'est ça, c'est de dire tel document, mais on va le garder encore pour une période de 10 ans, puis dans 10 ans, on va réévaluer, voir si son importance est encore.
C'est un document assez épais, donc on ne peut pas ici faire le tour de qu'est-ce qu'un calendrier de conservation. C'est un cours de 45 heures.
Okay.
Mais en gros, c'est ce qui sert d'appui à l'archiviste. Souvent, il l'a créé lui-même ou son organisme l'a créé, ou encore il existe un référentiel québécois d'un ministère qui lui donne des délais de conservation à appliquer à chaque type de document.
OK. Ouais, c'est fascinant.
C'est tout un monde.
Oui, puis ça, c'est pour les organismes. Le citoyen, lui, comment vous aidez le citoyen? Comment le citoyen peut... Est-ce que vous aidez le citoyen normal?
Bien oui, en fait, oui, certainement, parce que dès que quelqu'un a une question sur l'histoire, il peut s'adresser à la société. Parce que si on n'a pas la réponse, comme tout à l'heure j'ai dit, on n'est pas des gens qui ont la science infuse, mais on est des scientifiques, si on veut. Hein?
Ouais.
Donc, on va rechercher l'information. Si quelqu'un a une tâche plus importante, bien, on peut faire un contrôle, on peut faire une recherche plus avancée. Il y a certains organismes qui le font régulièrement, des collaborations avec la Société d'histoire pour avoir un historique, soit de leur organisme, soit des fois dans une perspective culturelle, de présenter le milieu de façon touristique, tout ça. On a ces services-là et le citoyen, lui, peut bénéficier de nos services de numérisation.
Okay.
Donc, on a un système de numérisation qui est bien en place. Et si on n'est pas capable de le faire ici, on a des contacts ailleurs.
Numérisation, c'est par exemple, j'ai des vieilles photos, puis ils sont en train de...
Des vieux VHS, ça fait
des
aussi.
Des vieux VHS,
Toutes sortes de supports. Tu serais surpris de voir la liste complète. J'invite les gens à s'adresser à nous s'ils ont des besoins en numérisation, parce qu'on se spécialise là-dedans. On est vraiment à l'avance, j'oserais dire, là, sur...
Puis est-ce qu'il y a des coûts à ça si moi j'arrive
à
ma collection de cassettes VHS?
Bien, c'est pas du pro bono, c'est évident, mais les coûts sont pas exorbitants, sont très raisonnables.
Okay.
Puis ça permet, le gain à faire est tellement important. Si c'est de préserver votre histoire de votre famille,
c'est
de préserver l'histoire de la communauté en général. Et là, on peut soit dire, oui, je cède l'accès si on veut se faire un fonds d'archives, par exemple, après, ou dire, il y a des restrictions, si vous voulez que ce soit juste votre famille qui ait accès à ça, là, ça se fait aussi.
Okay.
Donc, le citoyen peut faire appel à notre numérisation pour lui-même ou décider d'ouvrir un fonds d'archives, ou les deux. Donc, il peut conserver une copie numérique de toutes ces photos, par exemple, et nous les verser en fonds d'archives. Nous, on les conserve bien au frais, bien au sec. Et elles seront encore visibles dans 100 ans de ça. C'est-tu pas bon, un peu, de pouvoir conserver notre histoire personnelle et notre histoire de famille ou professionnelle?
Ben oui, clairement. Est-ce que vous avez d'autres services que vous offrez à la population?
Des services de rédaction, entre autres.
De rédaction.
Parce que chaque membre de la Société d'histoire a un petit peu sa spécialisation.
Okay.
Et il y en a certains qui ont un diplôme en rédaction professionnelle, d'autres en études régionales. Donc, on a toute notre petite saveur.
Mais quand tu veux dire rédaction, c'est quoi? Tu sais, je te compte ma vie, puis tu écris.
Ah, bien, quelqu'un qui aurait un texte à rédiger pour... Bien, ça, c'est peut-être plus institutionnel que personnel, mais ça pourrait se voir aussi dans une optique personnelle. Là.
Est-ce que vous avez encore le programme où les gens pouvaient écrire leur mémoire? Ça, c'est intéressant.
Ah, le programme Je me raconte.
Ouais.
Oui. Ça, c'est quelque chose qui est plus que la société. Je pense que c'était provincial, là.
C'est la Société d'histoire qui...
Oui, c'est ça. C'est une activité qui se déroulait à la Société d'histoire. Puis je trouve que ça allait bien dans le cadre de notre mission.
Ben, moi, j'ai lu, entre autres, le livre que Gilbert Goulet a écrit, l'ancien maire de Péribonka, en lien avec ce projet-là. Puis c'est vraiment intéressant. En fait, ça donne un beau portrait de ce qui s'est passé chez nous à une autre époque. Là, moi, je me considère encore jeune, mais il s'est passé beaucoup de choses.
Mais ces mémoires-là, après ça, sont déposées comme des documents d'histoire à la société. Donc, ça permet la consultation. C'est comme un beau combo, si on veut, là, que la société offre cette activité-là. Puis après, les documents sont disponibles à la société.
D'autres services où on a pas mal fait le tour?
On a quand même fait un bon tour. J'ai parlé de numérisation. Ça prend de plus en plus de place. On acquiert des équipements spécialisés.
OK.
Et si tu me permets de vérifier...
Non, c'est correct, parce que moi, la numérisation, ça m'intéresse. Je vais peut-être aller vous voir avec mes archives familiales pour...
C'est à peu près ça, Pierre.
Okay.
Écoute, t'avais-tu une question plus en profondeur?
Ah oui. Non, mais j'aime ça, cette discussion-là. Ça nous fait réfléchir sur l'importance, en fait...
Oui.
De conserver notre histoire, parce qu'il y a ça là-dedans.
C'est pas pour nous qu'on le fait nécessairement.
Ouais.
On a aussi une sorte de responsabilité de le faire pour notre descendance ou pour tout simplement la communauté qui va venir après nous.
Ouais. Est-ce que tu es déjà tombé sur des révélations où en cherchant, tu réalises qu'il s'est passé des choses ou qu'il a existé des choses dans le Boom Sessigny dont tu n'avais aucunement... tu savais pas, je sais pas.
Oui, tout à fait. Puis fréquemment, que ce soit ne serait-ce que par mes activités de gestion documentaire à la ville, il y a beaucoup de documents qui révèlent l'histoire dans les classeurs qui... Ils sont là, ils dorment un peu, peut-être. Mais moi, en ayant à les parcourir, j'ai appris des choses. Certaines, bon, on s'entend. Moi, j'ai un accord de non-confidentialité. J'ai un accord de confidentialité. Oui. Je peux pas en parler en détail. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de complot, il n'y a rien de ça. Là, mais je veux dire, il y a des choses intéressantes. Ah oui, c'est comme
c'est
ça que ça s'est fait.
Pour le respect de telle famille ou de telle
individu. Mais dans les fonds d'archives, qui sont pour la plupart publics à la société, oui, mais... Je te dirais, peut-être trop pour en avoir un en tête précisément aujourd'hui, là, mais okay. Il y a toutes sortes de trésors à voir. Là.
Puis est-ce qu'on peut se pointer à la Société d'histoire oui. pour fouiller, tu sais, pour
oui, mais ça, c'est plus amusant quand on a un abonnement. Quand on okay. est membre de la Société d'histoire, donc, 20 $ par année.
20 $ par année pour être membre, c'est ça ma question. Et n'importe qui peut être membre?
Oui, absolument faut... n'importe qui, okay. oui.
Et puis là, on peut se permettre d'aller voir, d'aller fouiller, d'aller oui. essayer de comprendre.
Et on a une publication aussi, La Souvenance. Okay. Qu'on distribue électroniquement. On peut encore demander une copie papier.
OK. Puis qu'est-ce qui se retrouve là, dans ça, la souvenance? Vous faisiez l'histoire de certaines familles, si je me souviens.
Oui,
bien.
Certaines familles, mais ça, c'est une rubrique. Ouais. Puis il y a aussi des rubriques qui sont historiques. Il y a des textes sur différents sujets de l'histoire de la ville, des rétrospectives. Il y a eu des éditions spéciales pour différents anniversaires. Okay. Donc, il y a toujours un aspect généalogie parce qu'il y a une masse de gens qui s'intéressent à ça. Donc, on continue de les alimenter là-dessus. C'est très, très intéressant, très important pour nous aussi.
Oui, c'est clair. L'image qu'on a d'un archiviste, un peu un vieux monsieur,
ouais,
là,
ça, là,
dans le fond, entouré de piles d'olives et de poussière,
dans
mais à
poussière.
Quoi ça ressemble réellement une journée d'archiviste là, quand tu fais ton travail?
Ça arrive qu'il y ait de la poussière, mais c'est pas toujours le cas, heureusement. Bien, un archiviste, ça dépend à quel moment il prend le document. Moi, par exemple, au quotidien, ces temps-ci, mes attributions, c'est d'aller dans les bureaux des différents membres du personnel de la ville et j'emprunte leurs documents. Ben, pas celui qu'ils ont sous la main, évidemment. Là. Voilà. Je vais être le moins dérangeant possible. Je vais dans leur classeur, bonjour. Je prends le document et je m'en vais dans mon bureau, mon espace de travail pour documenter, pour attribuer une classification au document.
C'est que tu regardes le document puis tu fais « OK, ça, c'est un rapport, ça devrait aller dans tel fond, sous telle rubrique. »
Des fonds, on est au niveau des archives. Moi, je vais plutôt attribuer un code de classification.
Code de classification, okay.
Puis je vais l'étiqueter correctement. Pour être
excuse-moi
sûr
au niveau des termes, mais c'est correct que tu
veux
reprendre parce que c'est ça l'idée, c'est de démêler ouais. tout ça. Là.
Le but de la gestion documentaire, parce qu'on est en gestion documentaire, c'est que l'information soit disponible rapidement.
OK, qu'on n'ait pas à dire « Ah ouais, j'ai ça quelque part dans un dossier » puis
ouais.
qu'on passe 6 mois à
oui.
le chercher.
Puis les organismes sont tous... les organismes publics du Québec sont régis par la loi, sont sous la loi des archives.
Okay.
Donc, ont l'obligation de rendre accessible, de rendre intelligible leur masse documentaire.
Okay.
Donc, le travail d'archiviste à ce moment-là, là, on parlerait peut-être plus de préposé en gestion documentaire, mais on peut dire archiviste pour simplifier les choses.
Okay.
Parce que c'est important à ce niveau-là, parce que les gens produisent beaucoup de documents au quotidien, puis ils n'ont pas toujours le temps d'attribuer, ils n'ont peut-être pas la formation exacte pour savoir comment gérer ce document-là. Donc, nous, on arrive pour structurer ça. Puis une fois que... Parce que là, on est en train de reprendre le dessus, là,
finalement. Okay.
Une
parce
fois que le
début,
projet est en
montagne,
place... Bien, c'est ça, c'est une ville, là.
Ouais.
Il
n'y
a quand même pas une... toute petite ville non plus. Là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de documents. Et après ça, quand le projet sera terminé, bien, on continuera de fournir le support. Mais on parlait de ce que je fais au quotidien.
Ouais.
Je vais chercher les documents pour leur attribuer une classification, le reclasser dans le classeur. Je vais être appelé aussi prochainement parce que j'ai terminé mon certificat. Donc, j'ai gagné un peu de galon. Je vais peut-être faire plus d'analyse de ce qui okay. s'en vient à faire dans... la gestion des documents de l'organisation.
Ce qu'il faudrait être fait pour être sûr de rien perdre et puis de continuer le roulement et pas reprendre le retard
ouais,
qu'on,
si
qu'on
on
a
veut,
réussi
ouais.
à passer...
faire avancer le projet.
Faire avancer
gros,
le projet,
ouais.
en gros, là, pour avancer. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais aux citoyens? Là? Un citoyen normal, là, il est chez eux, il fait du ménage, puis il trouve des affaires, puis il a l'impression que ça sert à rien. Est-ce que ça vaut la peine de dire... on va aller voir la Société d'histoire.
Ah oui, oui, tout à fait.
Oui?
Tout à fait. Rarement on trouve ça zéro intéressant. Il y a toujours un intérêt, ne serait-ce que pour la famille de cette personne-là ou pour lui-même peut-être plus tard.
Oui.
Venez, tout est bon, tout peut être bon. Puis si jamais il y a des trucs au travail qui ne sont pas bons, bien, notre travail, c'est de savoir quoi jeter, quoi conserver.
Un exemple de qu'est-ce qu'on doit acheter, tu sais, parce que des fois, tu me dis ça, moi j'ai l'impression que tout, on devrait garder tout, parce qu'il y a un indice de tout, mais tu des fois tu fais « Ah non, ça systématiquement, ça on garde pas ça. »
Des documents de nature éphémère, des petites communications qui sont pas en lien avec un événement qui est marquant.
OK.
Mais là, le sujet est vaste. C'est plus du cas par cas.
C'est plus du cas par cas.
Mais il y a des types de documents qui, effectivement, on se débarrasse plus rapidement. Des correspondances après un an, quand il n'y a rien eu de notable, on peut jeter ça. Des factures après 6 ans, par exemple, les garanties sont expirées et tout ça. Là, gardez pas vos factures éternellement. Aussi longtemps que le document a une vie utile. Parce qu'après ça, ça coûtait tant en telle année. Pas sûr que c'est vraiment nécessaire de garder là. Le prix est disponible ailleurs que ça sur votre facture à vous.
C'est ça.
C'est pas utile à conserver des années et des années.
De voir ça. Mais c'est vraiment intéressant tout ça. Avez-vous des projets pour la prochaine année, des projets spéciaux en lien avec la société?
On est occupé, mais il y en arrive toujours. Il y en arrive toujours. Je te parlais du centenaire de Gérardville. Ben, ça, c'est l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Là. Donc, ça va aboutir l'année prochaine. Toutes sortes de projets. Écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Je ne voudrais pas m'avancer trop sur certaines choses qui sont peut-être encore que j'ai su aussi et qui ne sont peut-être pas encore publiques. Là. Mais il y a beaucoup.
En tout cas, c'est fascinant. Puis, écoute, parler, on sent que tu es passionné par ça, puis est-ce que le soir quand t'arrives, t'as le goût de jaser un peu, parce qu'on a l'impression que c'est un travail de moine, puis t'es souvent seul avec des
documents? Oui, bien c'est ça, c'est oui puis non, parce qu'en fait, non, surtout pas dans l'aspect gestion documentaire qui me concerne au quotidien, parce que c'est beaucoup d'entre gens, il faut que tu ailles voir les gens dans leur bureau, tu travailles avec les documents qu'ils ont sous la main tous les jours, je dirais pas leurs documents, parce qu'en fait les documents appartiennent à l'organisme et non à la personne, mais il faut être capable de vendre notre salade si on veut. Okay? Ouais. Parce que des fois, les gens sont un peu réticents. Oh, qu'est-ce qu'il va faire avec mes dossiers?
On ne veut pas que les gens rentrent dans nos souliers.
Oui, c'est ça. Mais pour avoir une bonne gestion, c'est important d'avoir cette gestion documentaire-là aussi. Donc, il faut être capable de bien expliquer aux gens puis de s'accorder avec leur fonctionnement. Mais c'est bien important aussi d'avoir un résultat qui permette que la masse documentaire soit...
Mais je suis certain que tu dois bien réussir parce que tu es fascinant à écouter. Merci beaucoup, Jean-René Boutin, d'avoir démystifié, qui est archiviste, d'avoir démystifié la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine pour nous. C'est un plaisir. Allez faire un tour, allez voir, devenez membre même, c'est important pour la communauté.
Oui,
merci Jean-René, un plaisir. Merci aussi à vous d'avoir été là et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine!
Moi,
je travaille en français.
Moi, je travaille en français.
Moi, je travaille en français.
Moi, je travaille en français.
Moi, je travaille en français.